街を包む Midnight Fall 孤独なシルエット動き出せばそれは紛れもなくやつさカーネリーは男という名の物語許されるはずもない Peace and Love。
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronicle. Un épisode aujourd'hui un petit peu spécial qui va se consacrer spécialement sur les reptiles scamates, enfin pas tous, un seul en particulier, pouvant mesurer de 3 à 5 mètres à peu près, avec environ 15 kg pour les plus gros. Il est le spécimen le plus venimeux du monde, musclé comme que notre. Il est peut-être, avec l'aide de ses tendons, le plus reconnaissable. Une fois dressé, du haut de ses 1,80 m maximum, il sert à menacer toutes les formes de danger. Quand ça suffit pas, si cette posture n'est pas assez puissante pour justement faire peur, il sort son rayon delta et il devient Cobra, le légendaire aventurier et corsaire de l'espace dont la tête est mise à prix par les plus grands pirates de l'espace et la police galactique. Ce soir, pour m'accompagner dans ce voyage, tout comme Cobra à Armanoïde, je pouvais compter que sur mon fidèle compagnon, Cyril. Salut Cyril, comment tu vas ?
Écoute, ça va, j'ai essayé de refaire un petit peu le bruit du générique de Cobra. J'ai peut-être tout loupé, mais bon, c'est pas grave.
En vrai, on ne t'a absolument pas entendu.
Bon, bah écoute, c'est génial alors, parce que je pense que c'était ridicule.
Je mettrai quand même la petite bande-son pour aller bien. Du coup, vous l'aurez deviné, un épisode sur lequel on va se concentrer sur la série TV Cobra, sortie le 7 octobre 1982, et qui a donc fait ses 40 ans le 7 octobre dernier. Heureux hasard, parce qu'on a décidé ça sur le dernier enregistrement du podcast, sans être vraiment au courant, du moins pour ma part. Je ne sais pas si toi, tu avais fait le rapprochement.
Mais non. Pas du tout, je suis en train de réfléchir, mais non, c'est vraiment le hasard. On s'est retrouvés tous les deux à parler de Cobra, et on s'est dit, putain, mais ce serait bien de faire un podcast sur Cobra quand même. Et du coup, voilà. On se retrouve en plein anniversaire.
C'est exactement ça. J'avoue aussi qu'on a profité de faire cet épisode, parce qu'on a vu la série arriver sur Netflix, du coup, qui est également disponible, si je dis pas de bêtises, sur Amazon, hein, tu m'as dit.
Ouais, tout à fait. C'est disponible sur Amazon Prime depuis un bout de temps. Et en fait, ça vient d'arriver sur Netflix, ou du moins Netflix vient de me le proposer. Et on s'est dit, tiens, Cobra, ouais, c'est une bonne idée.
Du coup, on va pas faire plus long sur cette petite intro très chasse, pêche, nature et tradition. On va basculer sur la série télé de Cobra. Pour faire le pitch très rapidement d'introduction, cette série TV, c'est sur le premier épisode, on va dire, on rencontre Johnson, qui est un habitant d'un univers un petit peu futuriste, est un peu un flemmard, un bureaucrate qui procrastine tout simplement, et qui a envie de vivre sa vie à 100 à l'heure, sauf qu'il n'a pas un radis. Du coup, son fidèle robot, compagnon, serviteur, lui propose d'aller rejoindre la société qui propose les rêves artificiels. Ceux qui ont vu Total Recall trouveront le lien là-dessus, même si Total Recall est probablement inspiré plus de Cobra que l'inverse. Du coup, il va faire ce rêve un petit peu artificiel, et il va vivre cette aventure d'un grand aventurier, terreur des pirates de l'espace, où très recherché, beaucoup de succès, voilà, le grand aventurier tel qu'on l'imagine. Et il va se rendre compte, en fait, à son réveil, que c'était pas un rêve, mais en fait c'est sa mémoire qu'il recouvre petit à petit. Et il avait feint la mort de, enfin il avait feint sa mort pour justement fuir cette chasse qui était après lui des pirates de l'espace et de la police galactique. Et avec ce recouvrement de mémoire, il se dit bah, allez, fini la vie de bureaucrate, être flibustier, c'était quand même bien cool. Donc en avant, on embarque Armanoïde qui était finalement caché dans son petit robot serviteur qui avait vraiment une sale gueule, hein, on ne va pas se mentir au début. Et ils partent tous les deux pour ce premier arc qui est intitulé Le Retour de Cobra. Cyril, toi, Cobra, c'est quoi ton rapport avec ? Comment t'as connu ? Qu'est-ce que ça te représente ? Qu'est-ce que ça te parle ?
Alors, Cobra, moi, bah, bon, finalement, ça représente mon enfance. Moi, quand Cobra est sorti en France en 85, en février 85, je crois que c'était sur Récréa 2, du haut de mes 11 ans, on me présentait un gars qui était pirate, corsaire de l'espace, qui avait une espèce de rayon laser dans son bras qu'il enlevait qui tuait tous les méchants pirates de l'espace. Il était poursuivi par la police, mais en fait, c'était pas vraiment un méchant. Avec le recul, je pense que mon attrait pour les anti-héros découle certainement de ce dessin animé, comme on disait. Mais voilà, et il n'y a que dans les années 80 qu'on aurait pu avoir un dessin animé comme ça. Moi, Cobra, c'était... voilà, j'étais dans la cour de récré, on jouait un petit peu à être Cobra, et on faisait semblant d'enlever notre bras, on se tirait dessus. On avait l'album Panini, que j'ai toujours. Avec les images à échanger. D'ailleurs, il est presque plein, il ne doit pas m'en manquer beaucoup. Ce serait sympa que j'arrive à trouver les stickers qui me manquent, si j'en appelle aux auditeurs. Donc voilà, c'est vraiment, moi, le fait d'avoir regardé l'intégrale de la saison de Cobra, je crois que je n'avais jamais regardé la totalité des épisodes, ou alors je ne me souvenais plus de tout. C'est un des avantages des chaînes comme Netflix ou Amazon. On peut regarder quelque chose, on peut faire du binge-watching, on peut regarder ça se regarde tout seul, c'est 20 minutes un épisode. C'est vraiment, pour moi, c'est un retour en arrière. Quand j'ai mis la saison 1, épisode, enfin, saison 1, il n'y a qu'une saison, quand j'ai mis l'épisode 1, que le générique s'est lancé, bah, voilà, j'étais parti, j'ai regardé le générique jusqu'au bout.
Ouais, mais je suis assez d'accord. Comme tu dis, c'est... une seule saison de 31 épisodes avec découpé en plusieurs arcs en fait. Ouais. Y a 6 arcs principaux, on va dire, composés avec entre chaque arc ou presque des petits épisodes filler comme ça qui sont un petit peu indépendants mais qui lient le tout. Ces 31 épisodes en fait, ils couvrent environ 9 volumes de manga. On y reviendra un petit peu plus tard sur ça. On va déjà se consacrer à la série là. Tu parlais du générique. Moi, j'ai pas du tout le même rapport à Cobra que toi parce que ben, déjà, je suis un peu plus jeune. Donc, j'ai découvert Cobra sur le même principe que Albator et Goldorak aussi également, principalement pendant les fêtes de Noël, pendant les réveillons Noël et premier de l'an. T'es chez mémé et tout, où ça passe assez tard, enfin ça passait, je pense que ça passe plus maintenant, et, sur France 3 ou peut-être France 2, je sais plus exactement, mais on avait droit le soir à partir de 22h à ces dessins animés qui rediffusaient ben, du Cobra, du Albator, du Goldorak, et moi c'est comme ça que je suis tombé dessus. Alors comme toi, j'avais jamais vu l'intégralité de la série dans l'ordre déjà. Donc j'étais tombé sur plein d'épisodes différents. J'avais en mémoire l'arc du rugball, où c'est vraiment l'arc qui m'a marqué quand j'étais gamin et qui m'a fait très plaisir de le voir. Du coup, pareil, j'ai apprécié ce côté un petit peu, on te le présente comme un peu comme un corsaire, un pirate, ni rien. Mais en fait, c'est un peu l'aventurier au principe, tu vois. Vraiment, c'est ça, qui fonctionne au principe.
Et c'est vraiment un aventurier qui
a son propre code moral en fait.
C'est ça, qui a son code de l'honneur.
Exactement, voilà, ouais, le code de l'honneur. Et du coup, voilà, moi c'est comme ça que j'ai connu Cobra, et du fait qu'on en ait discuté, c'est quand même une figurine de une figure de pop culture, pardon, qui est ultra connue, que ce soit dans le monde de la Japanimation, entre guillemets, ou même dans le monde de la BD et du comics classique. Il faut dire que les influences sont quand même multiples. Et je pense que on va rapidement faire un petit peu le tour des arcs. On échangera, je pense, sur les influences de Cobra au fil des arcs dont on va découper tout ça. Mais je te propose qu'on commence par le premier arc, tout simplement, qui est en fait le retour de Cobra, qui s'étale sur 5 ou 6 épisodes, et qui en fait découle de ce premier épisode dans lequel Cobra retrouve un petit peu la mémoire et l'aventure démarre. Toi, t'en as pensé quoi? En fait, ce premier arc, il arrive juste avant le secret du capitaine Nelson avec les trois sœurs.
Ouais, alors moi, ce premier arc sert surtout, dans mon sens, je l'ai inclus dans mon découpage. C'est marrant parce qu'on n'en a pas parlé, mais on a fait tous les deux la même chose, on a découpé un arc. Moi, dans mon découpage, ce premier arc du retour du Cobra, incluait le secret du capitaine Nelson et les trois sœurs, parce que dès le départ, on se retrouve avec Cobra qui est face à cette personne tatouée. Alors, c'était pas Dominique au départ, c'était une autre des sœurs. Mais, oui. Mais voilà, c'est pour moi tout s'englobe. On a ces trois sœurs tatouées qui sont les filles d'un capitaine qui a caché un trésor. Il y a vraiment le méchant principal dans cet arc-là qui est l'homme de verre. Et cette recherche du trésor caché. Voilà, moi j'avais tout englobé dans un seul arc, mais on peut redécouper.
Oui, oui. Alors de ce que j'ai lu, dans les mangas, ça fait partie d'un seul et même arc, le retour de Cobra et le secret du capitaine Nelson, qui amène d'ailleurs derrière à l'arme suprême. L'arme absolue, pardon. Mais moi, je trouve que c'est quand même un arc d'introduction qui propose toute la construction que va nous faire vivre la série, en fait. Parce que chacun des arcs va se suivre en prenant en compte ce qui s'est passé derrière, mais un petit peu sur le même schéma de construction narratif. Et moi, j'ai trouvé ça assez cool, dans le sens où, à chaque fois, tu as l'épisode de mise en place, l'épisode qui te révèle pas le sous-fifre, mais un petit peu, l'homme de main, quoi. L'épisode du grand méchant, et enfin, tu vois, là, on passe à l'action, et là, on laisse libre cours un peu à Cobra jusqu'à cette espèce d'affrontement, quoi.
D'ailleurs, oui, c'est tous les arcs, tous les arcs, du moins, tous les ensembles d'épisodes dans les arcs se suivent un petit peu dans cette construction-là. Mais également, chaque épisode a ses hauts et ses bas, et nous propose quand même à la fois de l'action, un peu de... Pas de réflexion, mais au moins des plans assez calmes, un peu plus calmes. Si Cobra passe souvent pour un clown, et c'est vrai qu'il est dans l'exagération, dans le registre comique, on est dans la pantomime, il est quand même... il s'est passé d'un coup... sur un registre beaucoup plus sérieux, et surtout, et on le voit avec les trois sœurs, surtout quand les trois sœurs sont menacées.
Ouais, mais en fait, c'est un peu le trait de caractère de Cobra. On le voit en fait au fil de la saison, entre guillemets, de la série. En fait, plus que ça, moi, ce qui m'a un petit peu fait rigoler, c'est que le mec décide de se cacher parce qu'il est recherché par les pirates de l'espace, la police galactique, etc. Dès qu'il retrouve la mémoire, il crie partout « C'est Cobra ». Oui. Du coup, ça me fait assez marrer, c'est dans le sens où, au niveau discrétion, c'est proche du néant, là, hein, donc il va falloir un petit peu revoir ça. Mais du coup, je trouve que c'est assez malin dans le sens où tu gueules partout que t'es Cobra, mais comme t'as changé de visage, tu déstabilises ton adversaire direct. Dans le sens où il ne sait pas vraiment s'il doit dévoiler vraiment que... tu vois, l'ennemi du casino au début, c'est Zahora, si je ne dis pas de bêtises. il reconnaît pas Cobra, étant donné que c'est plus le même visage. Par contre, dès que le rayon Delta entre en jeu, là, il dévoile en fait le vrai Cobra, et du coup l'ennemi, voilà, et du coup l'ennemi dévoile vraiment ses intentions et il met en place son plan pour la capture et exterminer Cobra, quoi, en fait. Et j'aime assez ce côté un petit peu pile ou face, tu vois, où il joue de ça.
Effectivement, c'est. Alors, on part sur le même schéma que dans le premier épisode, en fait, où, suite à son rêve qu'il a acheté, où il se prend pour Cobra, il va dans un bar en disant ouais, je suis Cobra, et vas-y, ne m'emmerde pas, je suis Cobra, en ne sachant pas qu'il est vraiment Cobra. Et on a l'impression que tout au long de la série, il garde cette mentalité, ce trait de caractère. Où, en fait, moi, je traverse tout ce qu'on m'envoie. De toute façon, je m'en fous, je suis Cobra, et je peux m'en sortir. Parce qu'en fait, Cobra, c'est beau être un humain qui semble normal. Enfin, c'est quand même le super-héros dans l'absolu. Hein. Il est super résistant, il est fort. Il arrive à faire des cabrioles et des sauts périlleux. Enfin, bon, sans parler du rayon Delta. Mais enfin, voilà, c'est quand même un surhomme en soi.
Ouais, tout à fait. Et en fait, malgré que ce soit un surhomme qu'il ait ce rayon Delta qui soit en fait le plus puissant, parce que c'est le rayon qui fonctionne à la force de la volonté, donc clairement on t'explique que Cobra il a la plus grosse volonté, c'est celui qui est le plus juste, etc. Parce que clairement c'est un petit peu l'idée du chevalier blanc qui est tellement pas pur, tu vois, dans son. Dans ses pensées, mais genre, il utilise le rayon Delta à 100% de ses capacités parce que c'est un homme juste, alors qu'il n'est pas tellement vendu comme un homme juste, quand tu regardes bien. Parce qu'il vole, il allait pêcher avec les belles et jolies filles, tu vois, il boit, il fume, enfin...
Ah bah,
c'est... Ouais, tout à fait. T'en prie, vas-y.
En fait, on est quand même sur un dessin animé pour enfants, avec un héros qui est pirate, corsaire, aventurier, enfin voilà, qui est à la limite hein, quand même de la légalité, parce qu'il est recherché par les pirates de l'espace, mais également recherché par la police de l'espace. D'ailleurs, dans l'espace, tout le monde s'appelle espace. Hein. Il y a les éboueurs de l'espace, il y a les contractuels de l'espace, et enfin voilà, bon, peu importe. Et en fait, cet homme-là, ce héros, parce que c'est le héros de la série, alors, c'est un voleur. Il fume. Il a constamment son cigare au bec. Il boit
mais
de l'alcool.
Je sais pas si t'as remarqué, il ne l'allume jamais.
Ça alors, oh mais c'est vraiment pas possible.
C'est vrai que le cigare n'est jamais allumé.
Chaque fois qu'il veut l'allumer, il a le briquet ou quoi, il se passe quelque chose qui fait que soit il range, soit il perd.
Oui, mais le premier truc qu'il fait, c'est de s'en remettre dans le bec.
On est d'accord.
Dans la série, il meurt. Il meurt, donc, bon, mis à part qu'on le ressuscite avec du café, bon, ça c'est encore autre chose, mais le premier truc
câlin.
Qu'il fait... et un câlin. Le premier truc qu'il fait, c'est se foutre un cigare entre les dents. Bon, enfin, ouais, ok.
Ouais, mais...
Pourquoi pas ? Dans la lutte contre le tabagisme, on n'en parlait pas à l'époque, c'est pour ça.
Non, mais après, il y a beaucoup de choses comme ça aussi, tu vois... Il y a ça, et puis enfin, il y a les filles aussi qui sont avec. On va en venir, hein, mais...
Mais alors, voilà, bon, on passe le cigare, on passe l'alcool, parce que c'est du whisky qu'il boit, et de la fine Napoléon. Cobra, son rapport à la jambe féminine, déjà, il faut toujours dans ce dessin animé pour enfants, et je précise pour enfants, on est en 2022, bientôt 2023, et c'est sorti, donc on a dit en 82, 40 ans. Les femmes sont à poil. Mais à poil, oui. Vraiment. Elles sont à poil en full frontal, de dos, enfin, elles n'ont pas les pattes écartées, mais limite. Enfin, on voit les seins, on voit les fesses, on voit la forme de la vulve. On voit vraiment tout. Quand elles ne sont pas à poil, elles sont habillées avec des micro-bikinis, qu'on croirait sortis de pages de sites pour adultes.
Oui, et puis elles se douchent vraiment souvent, je trouve, dans cette série.
Ouais, mais elles sont propres. Ouais, la femme japonaise est propre.
Ouais, mais c'est quand même beaucoup là. À un moment. Ils n'avaient pas de problème d'eau, hein. Franchement.
Non, non, mais là sur le coup, le fan service est vraiment mais à 200%. Et si en plus de ça, on rajoute que la femme, il y a très peu de femmes fortes dans Cobra. Même Armanoïde et son, entre guillemets, son acolyte, mais un petit peu son esclave aussi. Et puis la femme est une femme objet. Enfin, dans la plupart des épisodes, toutes les nanas qui sont autour de Cobra, un peu dans des poses à la Conan le barbare, sauf que Conan enfin, voilà, dégage autrement plus de virilité que Cobra. Cobra qui fait le zouave quand il est entouré de gonzesses, qu'il a l'air un peu gêné, mais content en même temps. Et puis voilà, il y a des blagues misogynes dans la série. Enfin, c'est limite, ouais, t'es une femme, ok, t'es dans la police de l'espace, mais si tu pouvais me faire couler un café, ce serait pas mal, quoi.
En fait, il y a ça, et puis, alors, déjà, c'est là où on voit qu'il y a... Tu vois que l'évolution des mœurs est passée par là, parce que 40 ans d'écart, ça se voit. Par contre, il y a quand même... tu vois, les filles sont peu vêtues, voire pas du tout, il n'y a aucun truc là-dessus. Par contre, je trouve que c'est moins vulgaire que certains mangas qu'on trouve maintenant et qu'on lit maintenant. En termes visuels, hein, je te parle.
Ah oui, en termes visuels, ça reste... C'est comme quand tu prends un film avec une scène de nu. La scène de la douche n'apporte rien au développement scénaristique d'un film ou d'un animé. Néanmoins, graphiquement parlant, ça peut être beau, ça peut être joli, ça peut s'intégrer dans un truc un peu plus long. Bon, là, ça ne s'intègre à rien, c'est vraiment du fanservice dans Cobra. Hein. Mais c'est pas vulgaire.
Non, mais en fait, c'est ça. Je trouve que parfois, ça joue plus sur le côté un petit peu sensuel et c'est plus côté imagination de ce qui peut arriver. Plus le côté suggestion, voilà, c'est ça que je cherchais. C'est ça, bien que des fois la suggestion, elle y soit au chausse-pied. Hein. Mais,
ouais, c'est ça, la truelle.
Voilà, tu vois, malgré tout, sans dire, tu vois, on remet dans le contexte tout ce que tu veux, je trouve que moi, il y a des mangas de maintenant qui sortent qui me choquent beaucoup plus que ce genre de truc visuellement. Donc après, je suis d'accord, toute la partie misogyne et tout, par moment, c'est très, 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 très gênant. Vraiment abusé.
Alors après, effectivement, ça reste quand même un pur reflet des années 70-80. Faut pas se leurrer. On reste, alors là, on va se faire tuer ou spiller par tous les wokistes et les féministes et les adeptes de l'écriture inclusive. Mais voilà, on reste dans une idée d'époque. Dans les années 70-80, on a beau dire, voilà, le rôle de la femme était quand même moins évident et moins affiché que maintenant. Les mentalités ont évolué, la société a évolué. Néanmoins, on a beau avoir des nanas toutes bien gaulées d'ailleurs, en bikini, c'est pas que des nunuches. Dans les trois sœurs, il y a l'institutrice qui est un petit peu, je sais plus comment elle s'appelle, est un petit peu plus timoré que ses deux autres sœurs, mais les deux autres, elles y vont, elles envoient du bois, quoi.
Oui, ben déjà, il y en a une, c'est Dominique qui est police de l'espace. Après, il y a autre chose aussi là-dessus, c'est que les influences de Cobra, on va pas se mentir, à cette époque-là, c'est du James Bond, c'est Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, ça reste, tu sais, ces icônes de mode, un peu sex symbol entre guillemets, avec toutes les filles à leurs pieds dans les films, le James Bond qui est l'agent secret avec le cliché des James Bond girls. Donc au c'est final, ça. On est, tu vois, vraiment tous ces trucs, tu les retrouves dans Cobra. Du coup, c'est des inspirations. C'est difficile de te dire, tu t'attends à autre chose alors que tu sais ce que tu vas avoir, quoi.
Oui, à l'heure actuelle, on serait sur une caricature à la OSS 117 avec Jean Dujardin qui prendrait ça du second ou troisième degré. Je pense qu'il ne faut pas le regarder avec un œil malveillant. Enfin voilà, c'est du divertissement et ça reste, comme on disait, un symbole de ce qu'il y avait dans ces périodes-là. Comme tu le disais, Cobra est largement inspiré de Jean-Paul Belmondo, physiquement parlant, tout le monde le sait. Si vous ne le saviez pas, ben, on vous l'apprend. Mais,
De Alain Delon, tu sais, quand il fait le rêve au tout début, j'ai appris ça en cherchant, C'est inspiré des traits de Alain Delon sur son premier
oui,
visage.
Oui, Cobra, sa précédente incarnation physique, effectivement, ouais, c'est Alain Delon. Avec les cheveux longs, mais Alain Delon quand même. C'est vrai que ça se voit, voilà, on reconnaît quand même le personnage, enfin la personne. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, il y a cette inspiration physique de Belmondo, mais aussi cette inspiration dans la façon de le faire bouger, dans le grand guignol de Belmondo. Si on prend le film Le Guignolo, justement, on voit jouer Belmondo, c'est du Cobra.
Mais totalement. Mais pour en revenir à l'arc avec les trois sœurs, donc c'est Jane, Sandra et Dominique.
C'est ça. Jane, c'est la première qu'elle rencontre.
Tout à fait. Donc c'est elle qui va lui expliquer la légende, enfin pas la légende, mais le principe des trois tatouages, des trois sœurs qui ne se connaissent pas, etc. Et en fait, presque, c'est pas, comment on pourrait dire, Cobra va se servir de ça comme motif, entre guillemets, sous prétexte de courir après les filles. En fait, en tant que soi, c'est plus pour l'aventure et pour la récompense qu'il y a au bout, que vraiment, toi, le fait d'avoir les filles autour de lui. Parce qu'au final, les filles autour de lui, toute la série, il en a. C'est oui. Pas ça la motivation de Cobra.
Non, c'est plus l'aventure, c'est l'esprit chevaleresque, je dirais. Quand il rencontre Jane, elle est chasseuse de primes, pardon. Elle recherche ses sœurs. Donc c'est Catherine, en fait, la seconde. Sandra, c'est la chef des...
Oui, exact, pardon.
Ouais, des rebelles. Ouais. Qui recherche Catherine et qui a été kidnappée dans une prison volante par le colonel Schultz, comme Papa Schultz, un petit peu. Mais, enfin, par les pirates de l'espace. Et donc, voilà, Cobra va aider Jane à libérer sa sœur. Et ensuite, va rencontrer Dominique, qui fait partie de la police de l'espace. Enfin, voilà, c'est tout un enchevêtrement de rencontres, mais qui sont dirigées par cet esprit chevaleresque. Il n'a pas pu sauver une des sœurs ou les deux. Il va essayer de sauver la dernière. Enfin, voilà. Et Dominique, la dernière des sœurs, va être un personnage récurrent dans toute la série.
Récurrent et important, parce que elle fait, alors c'est un bien grand mot, mais elle fait évoluer Cobra dans son développement, même si c'est quand même pas une énorme évolution, on va pas se mentir, mais ça amène à la conclusion de cette série qui fait voilà, qu'elle a un impact fort sur Cobra.
Oui, après, on peut le dire carrément. Enfin, on sent bien que Cobra est amoureux de Dominique. Enfin, moi, je le ressens comme ça.
Oui.
C'est la femme sans qui la série n'avance pas, en fait. Et c'est la femme qui permet de le faire avancer. La plupart des arcs de la série sont liés à Dominique.
Complètement. En plus, c'est lié soit pour un côté personnel, soit... professionnelle. Alors ça, c'est assez marrant parce qu'elle est quand même de la police de l'espace. Cobra, c'est le mec le plus recherché soi-disant de l'espace. Ils arrivent à se téléphoner, à aller se boire un petit coup, tu vois, prendre des vacances ensemble et tout. Mmh. À aucun moment, la police, elle peut se dire « Ah ben tiens, on va l'arrêter, là. » Non, jamais, tu vois. C'est vraiment un truc...
Mais non, elle couvre Cobra parce qu'elle sait qu'en fait, c'est pas un méchant.
Mais ouais, non, c'est exactement ça. Pour continuer un petit peu en avançant là, sur les arcs de la série, donc on a le retour de Cobra et la chasse au trésor du capitaine Nelson avec les trois filles, qui mène justement à la résolution de l'arc de l'arme absolue ou de l'arme suprême.
Arme suprême, je crois, arme absolue, ouais, une des deux.
Ouais, c'est ça. Et du coup, qui est, moi, je trouve une bonne conclusion et une conclusion auquel je ne m'attendais pas en vrai. J'imaginais pas du tout que le trésor final, enfin que le trésor caché, Captain Nelson, ça pouvait être cette arme-là.
Bah, moi non plus. En fait, c'est ce qui est un petit peu étonnant, c'est que moi, à la base, un trésor, je m'attendais à un trésor, de l'or, des diamants, des trucs et tout ça. Et puis cette arme suprême, elle débarque et c'est sur la façon dont elle se manifeste.
Oui.
Qui est intéressant avec Sandra, justement, la chef des rebelles, là, les Faucons des Neiges, qui s'empare de cette arme suprême et la façon dont elle l'utilise. Et là encore, elle a beau être habillée avec un t-shirt et une brassière, c'est quand même un ennemi de taille.
Sans mauvais jeu de mots. Et puis après, c'est un peu truc, mais malgré tout, c'est des femmes fortes. Outre le, tu vois, la tenue vestimentaire, etc., les ennemis, ça reste des femmes fortes. Mmh. Pareil, quand ils rentrent dans la prison, pour s'échapper de la... enfin, pour quitter la prison, tu dois battre deux femmes fortes. Ça reste quand même où les femmes ont une place importante dans cette série, malgré tout. Pour l'époque, je trouve que on s'attend... Enfin, moi, je ne m'attendais pas à voir ça.
Ouais, c'est clair que c'est la petite ambivalence de la série où d'un côté on a la femme objet et de l'autre côté on a la femme forte, et finalement en mixant un petit peu les deux, on arrive à ne retenir quasiment que le côté femme forte et puis femme qui arrive à ses fins. Dominique, il faut pas rêver non plus. Quand ils sont en train de boire des pina coladas au bord de l'eau, qu'elle lui demande un coup de main, elle se sert de lui.
Oui, non, mais clairement. C'est vrai ce que tu dis, c'est intéressant, parce que quand tu réfléchis et que tu reparles de Cobra, le traitement que tu as en mémoire de la femme dans cette série, il est meilleur que le traitement qu'elles ont dans la série à proprement parler.
Oui.
Je sais pas si je suis assez clair.
Oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est
tu vois, en fait... tu t'as pas un, comment dire, t'as pas en fait un souvenir péjoratif de l'utilisation et du traitement de la femme dans la série en mémoire que comment les femmes sont présentées parce qu'elles sont très peu vêtues, parce que parfois elles sont femmes objets. En fait, comme les ennemis et les femmes fortes sont quand même très charismatiques, tu gardes plus en mémoire ces événements-là que celles qui sont reléguées un petit peu en femmes-objets, voilà, tu vois, un peu en arrière. Exactement, ouais.
Là-dessus, c'est vrai que sur l'utilisation qu'en est faite du personnage féminin, enfin des personnages féminins principaux, je compte pas toutes les gardes des Faucons des Neiges, là, etc. etc.
Oui, ils sont
d'ailleurs aussi en bikini, mais limite, ça fait sourire. Ça fait sourire parce que tu te dis, c'est tellement télescopé, on te le jette tellement à la gueule qu'on met des femmes en bikini, même sur des skis dans la neige, dans une tempête de neige.
Ouais, en fait, à la fin, tu vois, tu prêtes même plus attention parce
c'est
que...
Ça.
C'est suffisamment bien écrit et suffisamment rythmé pour que l'essence et l'intérêt de la série ne passent pas par ça.
Oui.
Du coup, ouais, ok, tu vois, elles ont des combinaisons parce qu'il neige, elles vont s'entraîner en bikini, machin, ben, ok, c'est leur truc, elles font ça, ben, basta, tu t'en fiches. En fait, c'est pas ça qui... Moi, c'est clairement pas ça qui m'intéressait. La résolution m'intéressait plus que le fait de savoir que les nanas étaient en bikini ou que machin, c'était... Enfin... Voilà, c'était pas l'intérêt quoi de ça.
Non. Et puis en plus, enfin voilà, toutes ces actions qui se suivent et se superposent emmènent quand même Cobra jusqu'à l'affrontement avec le Lord Necron. Je crois que c'est l'homme de verre.
Oui.
Et c'est une très bonne idée, ce gars d'ailleurs, ce squelette entouré d'un verre incassable.
Ouais.
Et qui plus est insensible au rayon Delta, l'arme la plus puissante de l'univers.
Mais c'est malin en plus, la manière dont c'est amené, vraiment. Et même le perso en lui-même, je trouve qu'il est stylé en vrai.
Ouais, alors j'aime pas trop la pince à la place du bras droit, mais
ouais.
Ce qui est le pendant de Cobra avec son bras gauche. Hein, d'ailleurs, à propos du bras gauche de Cobra, on s'est déjà fait la réflexion, on en avait déjà parlé tous les deux. Mais qu'est-ce qu'il fait de son bras une fois qu'il l'enlève ?
En vrai, ben, du fait qu'on en ait parlé avant d'enregistrer ce podcast et que j'ai revu la série entre-temps, c'est super bien foutu. Parce que au début, il te le présente, il tire, son bras s'éjecte.
Ouais.
Ensuite, il part au vaisseau et tout, il a récupéré son bras, machin. Et un peu plus tard dans la série, Cobra, il t'explique que il a clairement coûté un bras.
Coûté un bras.
Voilà, ça c'est fait, un peu petit cocher. Ça y a coûté un bras, mais en fait, il a une espèce de capteur qui, peu importe où il est au bout de la galaxie, lui ramène son bras. Du coup, à chaque fois, en fait, dans les premiers épisodes, ils ont fait l'effort de faire l'animation où tu vois Cobra qui enlève son bras pour tirer. Et après, il l'enlève plus. Mais je me suis fait la réflexion en me disant, comme on a été matrixé de voir Cobra à chaque fois faire sa roulade, retirer son bras et tirer, ça ne choque pas qu'après il tire direct, parce que pour moi, il avait fait cette manip, tu vois, d'enlever le bras, oui, de le jeter, et comme il revient automatiquement, ça ne me posait pas de problème. Tout ça parce que sur 3 épisodes, on te montre comment fonctionne le bras. Et j'ai trouvé ça super malin, en fait.
Moi, je sais qu'à un moment, au tout début, justement, quand il tire la première fois que son rayon delta, qui s'explose le bras gauche, qui retrouve Armanoïde et qui va dans son vaisseau, je crois, ou chez lui, je ne sais plus, non, chez lui.
Et chez lui, il va.
Un compartiment secret qui s'ouvre, avec ses armes, et également un bras de rechange.
Ouais. Donc, ben, peut-être s'il explose.
Il a peut-être plusieurs bras.
Après, il explique que ça va encore y coûter cher parce qu'il prend un coup de couteau ou un coup d'épée et ça lui abîme le bras, tu sais, ça lui perce le bras. Oui. Et il dit que ça va encore y coûter cher en réparation. Du coup, oui, il doit avoir des bras de rechange, quoi. Mais...
Ouais, c'est sûr.
C'était quand même bien fait, tu vois, de mettre ces petits détails, en fait, qui font que c'est crédible. J'ai trouvé ça assez cool. Là, on arrive... On arrive quand même là sur mon arc préféré. Ça, c'est vraiment l'arc qui m'a le plus marqué quand j'étais petit et que je me souvenais et que j'avais vraiment hâte de voir. Et presque, j'aurais pu aller direct voir celui-là en premier. C'est l'arc du Rugball. Gros clin d'œil à Gum. Inversement, hein, Gum qui fait un gros clin d'œil à Cobra, je pense. Moi, j'ai vu des similitudes, tu vois, un peu avec les espèces de combats mi-gladiateur, mi-baseball, là-dessus,
ouais,
c'est clairement...
C'est quand même vachement basé sur le baseball.
Oui, là, sur cette partie-là, c'est basé sur le baseball, mais en fait, c'est en règle, quoi, en gros.
Oui, c'est ça, c'est le baseball, le fait qu'on a le droit de tuer les autres concurrents, mais que sur le terrain. En fait, on n'a pas le droit de se battre en dehors, mais sur le terrain, on peut aller tuer les concurrents, c'est pas un problème. Voir ses coéquipiers.
Exactement, ouais. Et j'ai trouvé ça... Enfin, moi, cet arc, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Déjà, parce que Cobra, tu te dis, il peut tout faire, le mec. C'est juste un génie. Quoi qu'il lui arrive, il s'adapte à tout, quoi. Et j'ai trouvé ça assez cool, la manière dont est présentée les équipes. Et la manière avec laquelle il crée son équipe un petit peu de bras cassés pour aller rooster les plus forts et au final gagner avec cette reconnaissance, tu vois, du talent et de l'homme, quoi. Vraiment, sur la fin de cet arc, j'ai trouvé... Tu sais, c'est vraiment l'arc avec les valeurs du sport, genre... J'ai perdu, mais je te respecte parce que tu m'as gagné à la loyale d'après les règles du jeu dont il n'y a pas de règles. Et voilà quoi, c'était vraiment... Moi, c'est mon arc préféré, ça, vraiment.
Ouais. Alors moi, c'est un arc que j'apprécie pour une autre raison. C'est qu'en fait, je m'en souvenais absolument pas. je n'ai aucun souvenir d'avoir regardé cet arc sur le Rootball. Autant Salamandar, autant l'Homme de Verre, autant tout ce que tu veux, tout le reste, oui. Mais ça, j'ai fait une impasse totale sur cet arc-là. Donc, en fait, j'ai découvert de nouveaux épisodes de Cobra, qui se suivent en plus, qui forment un tout, une histoire complète. Et c'est vrai que c'est intéressant sur le cheminement. Alors, on reste sur du classique, c'est le petit nouveau qui finalement se fait remarquer, alors parce qu'il est plus fort que les autres. Et comme il a envie d'être dans l'équipe première. Il va monter son équipe de bras cassés. On prend le même schéma que le film, je crois que c'est Les Indians, que ça s'appelait, avec Charlie Sheen ou Martin Sheen, enfin un des deux frères, qui était sur le baseball justement, où c'était les pires bras cassés du baseball qui arrivaient à gagner le championnat. Là, c'est un peu la même chose. Surtout qu'en plus d'avoir cette équipe un peu de paria qui monte, il y a quand même un parallèle avec une sorte de revanche, un ancien complice à lui. Enfin, voilà, c'est fait de façon intelligente. Et comme tu dis, en plus, ça respecte les valeurs du sport. Donc, c'est bien.
C'est ça, ouais. Moi j'ai bien aimé. Et puis le fait que avec cette nouvelle aventure que Cobra y vit, il y a quand même les ponts avec son ancienne vie, où chaque fois il va retrouver un perso de son ancienne vie, là un ancien pirate, pas un ancien pirate, je sais plus si c'est un pirate de l'espace ou un ancien compagnon. Des fois c'est un petit indique, des fois c'est un robot, des fois c'est un ancien compagnon. Et ça a son importance parce que petit à petit, tu vois que les gens n'ont pas oublié que sa vraie vie, malgré tout, existe toujours. Et ça va avoir son importance sur la fin de la série, qui va vraiment être un point d'orgue à tout ça, quoi.
Ouais, c'est vrai que, en fait, dès le départ, dès le premier épisode, on nous dit que Cobra est pourchassé, etc., etc., etc. Et en fait, ça amène à une conclusion logique de la série. Si tu regardes le dernier épisode, il y a quand même une connexion avec le premier. Donc, enfin, voilà, c'est tout s'imbrique. Tout est connecté.
Ouais, complètement. Et du coup, on arrive sur la conclusion de cette série avec le dernier arc qui est composé de la, enfin qui tourne autour de la déesse Cid et de Salamandar, où c'est encore une fois Dominique qui initie un petit peu cet arc parce qu'elle se sent pourchassée et elle se sent pas en sécurité. Et il s'avère en effet que Salamandar, un nouveau méchant, en fait, je sais pas, je l'ai pas trouvé, tu vois, très dangereux comparé à ceux qu'on a croisés précédemment.
Il est moins charismatique que l'homme de verre, Salamandar, je trouve.
Voilà, exactement, c'était le mot charismatique que j'avais pas. Par contre, on sent qu'il est complètement tordu. Parce que dès
Ah
le
oui.
début, on se rend compte que. Comment on appelle? Il a un plan. Alors, on le sait pas dès le début, ça. On l'apprend que vers la fin, hein, ce plan. Mais tout est ficelé. Et quand on l'apprend, on se dit, ouais, putain, quand même, le mec, il a tout planifié depuis un moment. Et en gros, Salamandar, il tue clairement Dominique. Du moins, c'est ce que on pense sur les premiers épisodes. Ce qui aura le don de mettre Cobra dans une rage monstrueuse. Et de le faire renouer avec son ancienne vie et ses anciens camarades. Donc il va recréer une petite escouade pour partir en quête de vengeance, clairement. Le but de Cobra sur cette fin de série, c'est de tuer Salamandar et de venger Dominique. Et on va se rendre compte en fait que Dominique n'est pas totalement morte et que en fait elle aurait subi un lavage de cerveau. Et elle a été mise en lieu et place d'une prêtresse qui lui ressemblait, mais qui, elle, est morte. Et c'est Salamandar qui est aux commandes de cette manigance, parce que cette secte envoie des statues pour, soi-disant, prôner la paix, enfin, toute une doctrine au travers de l'univers, et Salamandar, lui, veut utiliser ces statues, ces bougies, n'importe quoi, ces statues pour prendre le contrôle de l'univers, je crois, si je dis pas de bêtises.
C'est ça, en fait, il veut s'en servir comme arme pour assurer le contrôle. Un peu, on reste dans des thèmes Star Warsiens avec l'étoile de la mort, avec ce genre de choses. Mais ça fait pendant aussi avec le début de la série et la recherche de l'arme suprême. Enfin voilà, on apprend là finalement sur la fin et sur cet arc de fin de série que, du moins on a la confirmation, que Salamandar, qui est le chef des pirates de l'espace, veut devenir le maître de l'univers et il veut utiliser les armes les plus mortelles pour ça. Il a loupé l'arme suprême, il essaie un nouveau coup avec ses statues spatiales.
Ça, et c'est super bien ficelé parce que jusqu'à la révélation de qui est la déesse, tu vois rien venir. Et même au début, quand tu la vois la première fois, Moi, je me suis même pas posé de questions. Je me suis dit, tiens, elle ressemble quand même. Et puis après, je me suis dit, bah, c'est pas grave. Enfin, ouais, elle ressemble, mais voilà, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas gênant. Mmh. Et en fait, quand tu prends la révélation, t'es là, tu fais, ah ouais, c'est vraiment malin de la manière dont c'est amené, quoi.
Ouais, c'est là qu'on voit que l'écriture, quand même, était réfléchie. Et que c'est pas des idées qui sont balancées au petit bonheur la chance, c'est que vraiment ça a été construit sur une saison, sur une série complète avec un début, une fin.
Enfin, voilà, la conclusion amène à une fin de série, moi que j'ai trouvé très satisfaisante. Vraiment, je suis pas resté sur ma fin, je me suis pas dit oh ça pourrait être mieux ou ça pourrait être différent. Genre on m'a donné cette série, ben ouais, elle me convient totalement par rapport à tout ce que j'ai vécu dans cette aventure. Pour moi, c'est une très bonne conclusion, quoi.
Ouais. Et puis, en plus, je trouve que le format, on peut se dire, ouais, des épisodes de 20 à 25 minutes, c'est normal pour un animé. Le format de 31 épisodes n'est pas courant sur une seule saison. Alors, on ne parlait pas en saison il y a 40 ans, mais 31 épisodes qui se suivent, ça ressemble à rien. Enfin, il n'y a aucun... Il n'y a aucune logique dans l'histoire. Et on part sur deux épisodes qui se font miroir entre le premier et le dernier. Le premier qui s'appelle Le Retour de Cobra, le dernier c'est Au revoir Cobra.
C'est ça.
Voilà, on est vraiment sur un début et une fin. C'est vraiment au final qu'un seul arc qui s'est étiré avec des sous-parties.
Ouais, et puis comme tu dis, il y a des petits épisodes qui sont. Enfin, comme on disait, il y a des petits épisodes qui sont au milieu en mode filler. T'as l'impression que ça amène rien, que c'est juste une petite aventure ou quoi, mais ça te permet simplement à Cobra de se déplacer, de se rapprocher d'un autre élément qui va déclencher l'autre arc. Et moi, je trouve que c'est une très bonne écriture. Vraiment, vos aventures pure et dure, c'est un bon space opéra.
Ouais, tout à fait. On est un peu loin de ce que des autres thématiques des séries de l'espace qu'il y avait à ce moment-là. Que ce soit Albator, que ce soit Ulysse 31, que ce soit Capitaine Flamme. Voilà, on est tout à fait sur un autre registre, et on part sur un registre un peu plus, finalement, un peu plus mature que certaines de ces séries, où, mis à part Albator, qui était quand même assez triste et assez plombé comme série, mais on part sur vraiment une autre vision de l'espace et de la façon de le montrer.
De toute façon, tu sens, on parlait tout à l'heure des influences James Bond, etc. L'influence Star Wars, tu la sens à 3000%, là. Que ce soit dans les déplacements des vaisseaux, les planètes, même toute la population qu'il y a, tu vois.
C'est très varié.
Ouais, mais c'est varié. Et puis même, tu vois, au niveau des costumes et tout, on parle des filles qui sont très peu vécues. Le lien avec la princesse Leia et Jabba the Hutt, il est clairement là. Enfin, ou alors, c'est moi qui l'ai vu trop tard, mais je pense que Star Wars était déjà sorti, si je dis pas de bêtises.
Leia et Jabba the Hutt, c'est dans Le Retour du Jedi, c'était pas encore sorti. C'est sorti après.
D'accord. Donc, bah alors, c'est parce que moi, je l'ai vu alors, plus tard, du coup, j'avais fait une association d'idées.
Ou Leia s'est peut-être inspiré, enfin, George Lucas s'est peut-être inspiré de Cobra, on va savoir.
Ouais. Possible, mais mais du coup c'est moi je dis une bêtise parce que comme j'ai vu plus tard, j'avais vu le Star Wars avant, du coup
oui, ça doit être ça.
Forcément.
Non, mais c'est voilà, c'est vrai que ça restait dans cette lignée des dessins animés spatiaux entre guillemets, mais avec sa propre particularité. Cobra, en plus de l'action et des jolies filles, on avait de l'humour, on avait une certaine noblesse d'âme dans sa façon d'agir et dans sa façon de réagir. Cobra supporte pas l'injustice, enfin voilà, ça se voit tout au long de la série, c'est un justicier.
Oui, et puis il prend parti des fois, on parle que dès que une belle fille arrive et lui propose, lui demande de l'aide, il fonce, mais ça a été le cas avec l'arc, avec l'enfant là, qui demande à être son petit frère, j'ai perdu le prénom, C'est également le cas avec l'arc, avec les épées, avec la mer de sable.
Oui, la mer de sable, tout à fait dans la mer de sable, où à partir
Avec
du
les
moment où
Sodès.
la fille qui lui demande son aide, il ne dit pas non. Mais je pense que
Complètement.
ça aurait été le gars qui ressemble à un canard, là, qui est aussi dans cet arc, je ne me souviens plus du nom, ça aurait été la même chose, il l'aurait aidé de la même façon, parce qu'il est. Je pense que même si c'est un anti-héros, il est foncièrement bon.
Oui, mais totalement. Il n'y a qu'à voir avec l'arc du rugball quand son pote meurt et qu'il a ses trois frères dans l'équipe dans l'équipe Z. Il a quand même tu vois, le fait de. Il a fait une promesse, donc il veut pas. Il fera tout pour protéger les frères.
Et qu'il fera tout pour qu'il ne joue pas. Et en fait, le gars lui demande, je crois, de faire en sorte que mes frères ne jouent pas et qu'ils n'essaient pas de me venger. Donc Cobra va essayer de faire en sorte qu'ils ne jouent pas pour ne pas se venger. Et comme il ne va pas réussir à les empêcher de jouer, il va faire en sorte d'essayer qu'ils ne se vengent pas.
Il y a ce côté chevalier blanc, hein, comme on disait, tu vois, du Cobra. Enfin, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que j'affectionne, parce que il est marrant, il a ce côté un petit peu héroïque, hein, et un peu badass, tu vois, en mode. Il y a le contraste, il est assez fort dans le sens où. C'est un héros que t'aimerais être, parce que tu vois, il est classe, il est cool, mais il a une gueule de clown. Enfin,
C'est
son
ça.
physique ne va pas du tout avec le personnage qu'il incarne, quoi. Et du
En
coup, le
fait,
contraste
son
des deux.
physique, avant de faire sa chirurgie faciale, allait beaucoup plus avec le personnage. Le brun aux yeux, enfin, aux cheveux longs, enfin, il faisait beaucoup plus sérieux. Là, sur sa tête de Jean-Paul Belmondo, c'est Jean-Paul Belmondo, mais en façon clown, quoi. C'est pas peur sur la ville, hein.
Ah non, mais c'est ça. Ah, son premier. Comment on appelle ça? Son premier physique, hein, limite Albator. Hein.
Oui, un petit peu. Un petit air d'Albator, ouais. Et justement,
Ses cheveux longs, sa
avec le sérieux
mèche.
qui va avec.
Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça aurait pas la même saveur si Cobra, il avait un look de vrai aventurier, très sérieux, très fermé, très froid. C'est le
Oh
côté un
non.
petit peu loufoque qui apporte cette fraîcheur à la série.
Oui, je pense aussi. Je pense que l'humour permet aussi de désamorcer certaines situations, notamment quand il tue des gens, parce que Cobra tue, hein,
Et pas qu'un peu.
et pas qu'un peu. Mais
Mais c'est toujours des méchants.
c'est toujours des méchants. Non, puis ça reste dans un. Il va tuer des méchants, mais derrière, il va balancer une vanne, ou il va y avoir un truc, ou il va se casser la gueule. Ou, enfin voilà, il y a toujours ce petit côté pour désamorcer la violence.
Et toujours. Après, il y a autre chose aussi qui est quand même assez fou, enfin assez fou, tout est relatif, bien sûr, mais on est en 2022, du coup la série elle a 40 ans, et je trouve que l'animation elle passe mais vraiment très très bien. Le travail d'animation qu'il y a sur la série à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a pas trop vieilli, je trouve.
Ça n'a pas trop vieilli, on n'est pas trop mal sur la vitesse d'animation, sur la fluidité. On sent que sur une télé HD, en passant par une plateforme de streaming, comme Netflix ou Amazon, on sent le petit décalage, mais c'est pas pire quelque chose qui ne serait pas tourné en HD. Enfin voilà. Sur la comparaison avec des animés actuels, il y a même sur certains, on est mieux.
Ben, alors moi c'est parce que j'ai comment on appelle ça? Et j'ai un petit kink, comme on dit, tu sais, sur l'animation traditionnelle. J'ai beaucoup de mal avec la nouvelle animation qui a un CGI là.
Oui,
Tu sais, mi-3D.
c'est ça.
Alors je reconnais qu'il y a des trucs très très bien, hein, parce que j'ai déjà regardé des séries où j'ai vraiment beaucoup apprécié cette animation-là. Mais j'ai quand même. Était biberonné, tu vois, à l'animation traditionnelle, etc. Ça se voit clairement dans Cobra, tu vois, typiquement, quand le vaisseau y vole, que le fond il est fixe, hein, et c'est juste le vaisseau
Oui.
qui a été travaillé pour bouger. C'est des petites choses comme ça, mais ça a un côté un petit peu. C'est un petit côté que moi j'aime beaucoup. Mais j'ai quand même été vachement bluffé, parce que oui, c'est pas de la HD, oui, c'est pas, tu vois, le top en 16/9e et compagnie, mais pour une série qui a 40 ans, c'est largement regardable et à aucun moment tu te dis, tiens, l'animation ça vieillit, c'est mauvais. Je pense qu'il y a des films en 3D, tu vois, tu reprends un Toy Story 1 ou genre un Fourmise ou un truc comme ça. Je pense que ça a beaucoup plus mal vieilli que l'animation de Cobra là-dessus.
Ouais, je pense que c'est aussi dû alors à plusieurs choses. D'abord, l'animation traditionnelle avec des celluloïdes. Forcément, si c'est quelque chose de qualité, ça restera de la même qualité tout le temps. Alors qu'une animation en image de synthèse d'il y a 20 ans, tu parlais de Toy Story 1, alors, carrément, on a eu un bond technologique depuis. Avec ce qui nous est proposé, quoique des fois on voit certains effets spéciaux dans les films, on se demande. Mais voilà, il y a vraiment une grosse différence technologique. L'animation en celluloïde de Cobra, elle était déjà bien établie, ça faisait des décennies qu'on s'en servait. Donc forcément, ça garde cette même fluidité. Qui plus est, alors je ne sais pas sur Amazon, parce que j'ai regardé sur Netflix, mais ils ont conservé le format 4 tiers. Et je pense que de ne pas avoir une image déformée, agrandie, redécoupée, enfin, etc., ça permet de garder aussi cette fluidité. Je pense qu'on aurait perdu sur un format 16:9.
Je pense aussi, comme ça, en parlant, l'exemple qui me revient, c'est Buffy qui a été remasterisé et remis au goût du jour. Mais du coup, comme ils l'ont mis sur du 4K, ils ont rogné, en fait, sur la série, sur l'image. Ni le haut ni le bas, ça recadre un petit peu et ça casse un petit peu la manière dont a été pensée la série. Dommage. Et je suis assez content qu'ils aient gardé ça dans Cobra avec le truc original, quoi. Enfin, avec le format original.
Après, c'est assez cool. Tu vois que le Snyder Cut de Justice League en 4 tiers de 4 heures, tout le monde dit que c'est génial. On est prêt à re-avoir des télés en 4 tiers. Hein.
Bon, alors moi déjà. Quand tu me dis 4 heures et c'est génial, non, en fait non, parce que 4 heures, ok. Moi, j'ai pas 4 heures de ma vie à foutre pour regarder un truc que j'ai déjà pas aimé sur une heure et demie.
Oh, c'était 2h30, je crois même.
Non mais voilà, enfin, tu vois, je critique en grossissant le trait, quoi.
Je sais que t'aimes pas les choses qui sont trop longues.
Voilà, tu vois.
Tu viens de regarder 31 épisodes de Cobra de 20 et quelques minutes.
Tu veux savoir, 20 et quelques minutes, c'est le temps parfait pour le matin, quand je prends mon petit café. J'ai le temps de prendre un café, un épisode de Cobra, et je peux même regarder un deuxième épisode de Cobra pendant mon Inktober en ce moment. Donc, c'est juste le temps qu'il me faut. Après, voilà, j'ai fait 2 fois 40 minutes. Enfin, j'ai fait 1 fois 40 minutes de série. Je peux passer à autre chose. J'ai d'autres choses à faire. J'ai pas trop perdu de temps. J'ai pris du plaisir à regarder ça. C'était cool. Et si j'avais envie de m'arrêter au bout de 20 minutes, m'arrêter au bout de 20 minutes. Ça m'a fait plaisir. C'était cool.
Après, moi, j'ai binge-watché les 12 premiers épisodes, donc mais je me suis fait d'un trait. Je me suis dit, après, non, je vais respirer un peu.
Ouais. Après, je pense que je l'ai apprécié aussi, tu vois, parce que c'était le matin, c'était le petit plaisir, tu vois, avec le café. Alors, je me faisais un épisode ou deux, suivant le temps que j'avais, suivant le matin. Mais c'est super, ça m'a fait plaisir, tu vois, ça m'a rappelé un petit peu quand moi j'étais gamin et que je regardais Dragon Ball et tout ça. Je buvais pas de café à l'époque, hein, parce que heureusement pour mes parents. Mais voilà quoi, c'est le souvenir de retomber un petit peu en enfance devant les dessins animés le matin, quoi. Donc il y a cette double saveur du truc. Épisode pas court, épisode plaisir, et voilà, la nostalgie, tu sais.
Ouais, non, puis moi, je dois avouer que moi qui papillonne d'une série à l'autre, si je pouvais, je regarderais 4 séries différentes en même temps. Mais là, je me suis vraiment mis sur Cobra et j'ai rien regardé d'autre pendant la semaine, parce que je crois que ça m'a pris une semaine pour le regarder, j'ai regardé que ça. Et en fait, c'est le soir, mon plaisir, c'est le soir rentrant du boulot, je me pose dans mon canapé, je me mets un épisode et j'attends que ça retombe. Mais voilà, et puis tu regardes un épisode, tu dis ouais, allez, je mets le suivant, puis je mets le suivant, et puis tu regardes ta montre, tu dis putain, c'est tard quand même.
Un petit peu, ouais. Mais du coup, c'est voilà, une bonne saison, enfin une bonne série, hein, 31 épisodes avec 6 arcs majeurs qui découpent cet arc principal qui est l'aventure de Cobra, Space Cobra Adventure. Moi, ceux qui connaissent pas, je vous la recommande parce que ça n'a pas tant vieilli. c'est plutôt agréable. Alors bien sûr, il va falloir faire un petit peu abstraction de un peu du traitement, comme on disait, des femmes, un petit peu des robots qui sont clairement des esclaves, quoi qu'il en soit, et qui soient matérialisés en femmes ou quoi. Et ça, c'est pas non plus outrageant,
c'est
tu vois.
Ouais, voilà, c'est pas outrageant, c'est ça reste un divertissement quand même, quoi.
Voilà, et ça reste une série confort.
Quel que soit l'âge, je pense qu'on peut le regarder. Alors, c'est pareil, en 40 ans, les mentalités ont évolué. C'est peut-être pas le genre de dessin animé qu'on ferait regarder à un gamin de 11 ans, comme moi j'ai pu le voir. Ça va pas traumatiser votre enfant de regarder Cobra, rassurez-vous. Vous pouvez regarder Cobra avec lui, d'ailleurs. Je pense que ça fera de bons souvenirs, en plus.
Ouais, je pense aussi. Mais en plus, là, on a parlé de la série. Après, l'univers de Cobra, lui, il n'est pas en reste non plus, hein, parce que on retrouve entre 2008 et 2009 une série de 6 OAV de 30 minutes. C'est 6 petits films, en fait. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Je n'étais pas du tout au courant que ces OAV-là existaient. Du coup, je me prononcerai pas sur ni la qualité ni ce que ça raconte parce que j'ai pas vu, hein, tout simplement. On a aussi eu le droit en 2010 à une série de 13 épisodes qui est disponible en Blu-ray et en DVD, si je dis pas de bêtises. Moi, je suis tombé sur quelques épisodes, j'ai dû en voir 2 ou 3, quelque chose comme ça. Ça m'avait fait plaisir à l'époque parce que l'animation et la qualité étaient quand même vraiment très belles. On était sur un niveau au-dessus, tu vois, sur des animations en HD et tout. J'ai un très bon souvenir de l'animation. Par contre, pareil, comme j'ai vu que 2-3 épisodes, difficile de me faire un avis sur toute la série. Par contre, à l'occasion, si je mets la main dessus, je les regarderai avec plaisir, tu vois, pour avoir une espèce de petit comparo. Avec ce qui se faisait, ce qui s'est fait du coup sur cette série-là, en 82-83, et ce qui s'est fait en 2010, pour voir un petit peu est-ce que ça a évolué, est-ce que c'est resté toujours dans la même veine, tu vois, le même esprit. Je serais assez curieux de savoir un petit peu comment ça a évolué.
Ouais, alors moi j'ai absolument pas vu cette série, je dois avouer que je suis passé à côté. 2010. Ça devait faire partie de l'époque où j'ai fait un petit break avec toutes ces choses-là. Ouais, je serais assez curieux de le voir. En fait, je trouve dommage que Netflix nous propose la série originale et pas cette deuxième série, qui permet, messieurs et mesdames de Netflix, si vous nous écoutez, qui en plus existe en VF. Contrairement aux OAV, je crois qu'il n'existe pas en version française. Ça doit exister en japonais ou en anglais, éventuellement. Mais c'est du 2. Ouais. Je pense pas.
Si, si, les OAV sont sortis en DVD et Blu-ray.
D'accord, mais il y a avec une version française ?
Peut-être. Ouais. Oui, oui.
Ouais, ok, d'accord. Bon, ben. Donc je suis preneur aussi parce que je trouve ça assez, assez intéressant. Surtout qu'il y en a un qui est sous-titré Le passé de Cobra et d'Armanoïde. Et l'autre, les 4 autres, c'est sous-titré Le retour de l'homme de verre. Donc, comme on disait, c'est peut-être un personnage un peu charismatique de l'univers Cobra. Ce serait intéressant à voir.
Et c'est dispo, je n'ai pas vérifié, mais c'est Kazé qui a édité les DVD et de la série TV et des OAV.
Bon, je pense que ça doit pouvoir se trouver sur Amazon.
Ouais, je pense aussi.
Chez votre revendeur préféré de quartier.
C'est ça, chez votre vidéo club du coin.
Voilà. Vidéo culture. Pour 2 OAV loués, 2 OAV offerts.
C'est ça. Là, t'as perdu la moitié des auditeurs. Vidéo future, les mecs, ils cherchent sur Internet, ils savent plus ce que c'est. On a... J'imagine quelqu'un en train de taper vidéo future, tu sais.
Et là, il peut dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais bon.
Non, mais tellement.
En attendant, le dernier, alors pas vidéo future, mais je fais vraiment un aparté, mais totalement délirant, le dernier loueur de DVD, parce qu'après les cassettes VHS, on était passé au DVD, a fermé il n'y a pas si longtemps que ça en France. Hein. Il y avait encore des gens qui louaient des DVD. Hein.
Mais au final, Netflix, il n'y a pas si longtemps, louait des DVD par correspondance aux US. Hein. Et je ne sais pas s'ils ne font pas encore.
Hein. Ah, tu vois, comme quoi. Hein, le DVD n'est pas mort.
Mais, Je suis exactement en train de regarder parce que...
Ah ben vas-y, alors éclaire-nous sur le sujet parce que effectivement, je ne vois pas l'intérêt pour une plateforme de streaming de louer des films physiques.
Ah non, mais en fait, le Netflix, à la base, était une boîte qui louait des DVD. Et quand ils se sont agrandis et externalisés, ils se sont mis au streaming. Mais leur activité première, c'était la location de DVD. Et pour
d'accord,
te dire...
Okay.
Donc ils ont
preuve,
commencé...
Netflix aurait pu s'appeler Vidéo Future.
Exactement. Et du coup, Netflix a commencé en 98 à faire cette location de DVD. Et sur un article, alors qui est un peu ancien, hein, je ne sais pas exactement maintenant ce que ça en est, ça date de 2019, de fin 2019, ils avaient dépassé la barre des 5 milliards de films loués et envoyés en DVD. Donc, est-ce qu'ils le font toujours maintenant? Je ne sais pas. Peut-être
non,
à creuser, je vais aller voir.
Mais on va appeler Netflix, on va leur poser la question.
Voilà. Bref, tout ça pour dire que Cobra, c'est dispo sur Netflix et sur Amazon. Il y a également une... Alors, là, on va en parler. Par contre, il faut que vous ayez les reins solides et il faut que vous soyez très potes avec un banquier. Parce que Cobra, ça existe en format manga en France. On a eu droit à 5 versions, enfin 6 versions exactement, dont... 4 en noir et blanc et 2 en couleur. Par contre...
Alors moi, il me semble que j'ai vu effectivement des cobras en couleur.
Ouais. Alors, il y a Taifu Comics de 2007 à 2012 qui a proposé une version couleur et Isan Manga qui a proposé de 2018 à 2022 une version couleur également. Par contre, si vous voulez l'intégralité de la série, c'est là où il vous faut vous asseoir et prendre des notes. Mais... c'est assez compliqué parce qu'en fait, entre 1998 et 2002, Dynamic Vision a sorti la série Cobra en noir et blanc. En 2002, ça s'est arrêté. Cobra est revenu en noir et blanc chez Taifu Comics en 2006, en 2008. Par contre, ils n'ont sorti que certains arcs. Tout n'est pas disponible dans chaque...
D'accord.
Dans chaque éditeur. Du coup, si tu veux la complète, il faut un petit peu mélanger, genre, il faut acheter une intégrale d'une série et compléter avec des tomes d'un autre éditeur pour pouvoir avoir tous les épisodes et toute la saga complète de tous les arcs, si tu es complétiste. C'est assez compliqué. Moi, j'ai regardé un petit peu les prix, parce que je me suis dit, je vais peut-être pouvoir les trouver d'occasion pour lire un petit peu. Ça se vend un bras, et plus tu cherches des numéros qui sont... fin et tout, où je pense le public n'était pas au rendez-vous pour acheter, donc il y a eu moins de tirages et ça chiffre vite. On est à 150-200 € les derniers volumes, quelque chose comme ça.
D'accord.
Ça commence à piquer. Alors les premiers volumes, t'en trouves pas mal hein, pour c'est sous box, principalement ce que moi j'ai vu, donc tu les trouves dans les 40 €, ça reste un coffret de 4 mangas avec un coffret cartonné, machin. Ça reste honnête. Par contre, dès que tu vas vers la fin, ouais, ça devient hors de prix. Et... En plus, c'est compliqué parce que t'as des arcs qui sont découpés sur plusieurs volumes, mais suivant l'éditeur, il n'a pas découpé pareil. Du coup, si t'achètes pour avoir un début d'arc d'un tome, tu vas te retrouver un peu avec des doublons et tout. J'ai essayé de compléter, c'est assez compliqué et voilà, ça coûte très cher et c'est dommage, tu vois, que ce genre de choses, ça soit pas disponible. Alors déjà, bon, chez un éditeur, je sais pas où sont passés les droits, ni qui les a, mais ce genre de truc, c'est dommage que ça soit pas dispo, tu vois, sur un abonnement, ben, à la Netflix, un petit peu, tu paies genre 10 balles par mois et tu peux avoir accès à des séries comme ça, un peu anthologiques, tu vois. Enfin, je sais pas si on peut dire anthologique, mais... Tu vois, des vieilles séries difficiles d'accès. C'est dommage.
Ouais, un peu comme Marvel Unlimited où tu peux lire en payant un abonnement, tu peux lire autant que tu veux. Et on pourrait. Ouais, mais il y a des trucs comme ça qui existent. Je crois qu'il y a Inker. Il me semble que c'est ça, hein, l'application qui permet de lire en illimité ce qu'ils ont.
Mais il y a pareil, il y a en France, c'est manga.io. Ben exactement, sur le même principe, tu as manga.io qui a des partenariats avec des éditeurs de manga français et qui te propose, moyennant un abonnement mensuel, d'avoir accès à tout le catalogue que eux ont à disposition. Alors je sais, il y a Kana et il y a d'autres éditeurs qui te proposent. En plus, ils te proposent les chapitres à la semaine, un peu au même rythme de parution, etc. Et c'est assez intéressant pour peu que tu sois consommateur de titres en numérique, tu vois. Moi, je sais, pour des pour des titres un peu anciens comme ça, que voilà, pour préparer le podcast, j'aurais eu accès à ça, j'aurais pris un petit abonnement de moins. Je me dis, 9 balles, ça coûte le prix d'un tome, j'ai accès à toute la série. Et ça me permet d'y avoir accès, parce que c'est des trucs qui sont pas facilement trouvables, et c'est dommage, je trouve.
Mais c'est même étonnant qu'il n'y ait aucun éditeur qui ait récupéré les droits, et qui se soit dit, il y a 9 tomes en manga VO. Enfin voilà, le marché du manga est suffisamment important en France, même s'il commence à être un petit peu saturé. Enfin, c'est ce qui se vend le plus dans la bande dessinée. Personne n'a eu l'idée d'éditer, pas même pas de rééditer, mais d'éditer les 9 tomes du manga à la suite avec 3 mois.
Il y a 20 volumes.
Mais même les 20. Enfin, on se retrouve.
Oui, maintenant avec
les mangas qui sont à plus de 50 volumes et qui sont pas terminés. Là, on sait qu'il y a 20 volumes, ok. Mais on sait qu'il y a.
Même en plus, avec les versions de luxe et tout, tu les fais un peu plus grand format, un peu beau et
voilà,
tout.
Voilà, il y a moyen de faire quelque chose de sympa et de viable financièrement, quoi, pour un éditeur.
Alors, après, je veux pas dire de bêtises, hein, donc je m'avancerai pas et je vous inviterai à aller checker la vidéo de iComics où il y a un invité, alors je crois que c'est la vidéo de juillet ou août 2022, où en fait, c'est de mémoire, hein, parce que ça me... Je ne suis pas sûr à 100%. Il me semble que c'est le fondateur de Isan Manga qui avait récupéré les droits et qui avait publié Cobra en couleur et qui expliquait que c'était très compliqué parce que les originaux avaient été extrêmement dégradés et que c'était très compliqué à éditer en grand format, etc. Donc peut-être que aussi les fichiers sources de base sont difficiles à avoir ou voilà. C'est une possibilité aussi. Mais. Enfin, je mettrai le lien dans la description du podcast pour cette vidéo. S'il en parle mieux que moi, il explique un petit peu comment l'auteur a travaillé sur Cobra pour la couleur et tout. C'était assez intéressant. Alors, ça parle pas que de ça, mais il y a un passage qui en parle et franchement, c'était très très cool.
Bah, écoute, ouais, ce serait intéressant de découvrir le pourquoi du comment. Après, on sait, toi comme moi, comme la plupart des éditeurs, qu'on peut restaurer de vieilles éditions, même si les fichiers sources sont en mauvais état.
Oui, mais il faut les avoir, les fichiers sources, c'est ça. S'ils sont plus dispo... Oui.
Après, on scanne, quoi. Enfin, il doit bien avoir quelqu'un qui a l'intégrale de Cobra, tu scannes les pages... Enfin, voilà, je
le pense. Oui, non, mais c'est sûr, ouais.
Et il y a beaucoup d'amateurs qui le font. Je pense que des pros peuvent arriver à nous sortir quelque chose de très, très...
c'est possible, là, il doit y avoir affaire. En vrai, mais maintenant que t'en parles, je serais curieux de savoir qui a les droits, tu vois.
Ouais, bah, surtout qu'en plus, ne serait-ce que la réédition, mais on a vu que, avec la sortie du Goldorak Made in France, qui a très très bien marché, on a vu qu'il y avait un public pour ce genre de produit, que ce soit des suites ou que ce soit des rééditions. On avait ce public-là, c'était. Même pour un éditeur, là, financièrement, c'est pas prendre un gros risque que de rééditer Cobra. Au pire, il édite 3 tomes, il fait comme les autres. Il édite 3 tomes, il voit que ça marche pas, il arrête. Mais ouais, ça peut être intéressant.
Complètement. Bah, du coup, je te propose de conclure là-dessus sur ces dernières petites informations et sur ce podcast consacré au reptile qu'est le Cobra. Pour plus d'informations, rendez-vous à 4h du matin sur la chaîne Chasse, Pêche, Tradition et Petite Nature.
Alors, vous toi, évitez tu absolument... jamais réveillé à 4h du matin parce que tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. C'est les canards qu'on voit sur Chasse, Pêche, Tradition.
J'en ai aucune idée et quand bien même je serai debout à 4h, je regarderai du basket et absolument hors de question que je regarde un truc en lien avec la chasse.
C'est hors de question. Non, mais ça, c'était... Alors, cette émission est pour les vieux insomniaques qui, à l'époque, il n'y avait pas de programme télé la nuit. Il n'y avait que ça.
C'est parce que les vieux, il fallait qu'ils dorment à cette époque.
Ils étaient jeunes à cette époque, les vieux.
Enfin, on ne va pas repartir sur une nouvelle émission. On va vous garder ça pour un prochain épisode Chasse, Pêche et Tradition. Peut-être, qui sait, le spécial Noël. On le fera peut-être là-dessus. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment au détour de cette émission avec nous. Nous, on a apprécié le faire. Du moins, moi, pour ma part, j'ai apprécié re-regarder Cobra et pouvoir en rediscuter avec toi.
Bah, je dois avouer que c'était agréable. Et puis, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. On en a parlé lors de l'enregistrement du podcast précédent. Et on s'est dit, tiens, mais Cobra, c'est vachement bien, en fait. Ouais, on va regarder Cobra.
Du coup, regardez Cobra, venez nous en parler, donnez-nous votre avis un petit peu sur comment vous l'avez vécu et le ressenti que vous avez eu. En attendant, nous, on reviendra probablement en temps et en heure, parce que déjà, on se tient, comme on avait dit au premier épisode, on est là 3 semaines, 1 mois après le premier épisode, donc c'est assez important pour le noter. On reviendra très probablement pour un autre épisode, voire peut-être 2 avant la fin de l'année. Pour tout le reste, comme d'habitude, les chroniques sur le blog, sur Instagram, Twitter, Facebook, même si voilà, vous savez ce qu'on en pense. Pour tout le reste, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous pouvez nous faire des petits messages, des petits mails, on est toujours dispo et c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup Cyril pour ta participation à cet épisode de Cobra de Space Adventure. Je te dis à très bientôt.
À très bientôt.
Merci à tous. Salut, salut. Mais votre roi est là.